France Musique.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine relax. C'est une bête du clavier, du genre à enchaîner les concours aussi bien que les concertos de difficultés stratosphériques. Andrei Korobeinikov nous a donné ces dernières années quelques albums remarquables qu'on va aller visiter aujourd'hui à l'occasion de concerts qui nous attendent avec lui. 16 heures en disque de légende, Maria Callas à Paris, volume 1, et puis on terminera avec de brèves et sémillantes baroqueries. Mais tout de suite, dans la discographie d'Andrei Korobeinikov.
Thank you.
Allegro vivace qui ouvre la deuxième sonate de Johannes Brahms, l'opus 99, au violoncelle Alexander Kniazev, au piano Andrei Korobeynikov, avec ce clavier, vous l'avez entendu là, très solide, presque athlétique. Korobeynikov vient d'une famille non pas de musiciens mais de physiciens. Il a d'ailleurs débuté le piano de manière tout ce qui est le plus circonstanciel. À l'âge de 5 ans, il n'arrivait pas à bien articuler certaines lettres, il parlait assez mal. L'orthophoniste a donc conseillé à ses parents de lui faire faire de la musique. On l'a envoyé au conservatoire du coin. On s'est rendu compte qu'il chantait juste, qu'il avait l'oreille absolue. Et à l'époque, en Russie, on mettait les jeunes musiciens, ou en tout cas ceux qui avaient cette oreille absolue-là, quand même, qualité presque rare, d'office, on les mettait au piano. Ça a donc été le cas. Et c'est tout bêtement comme ça que ça a commencé. Alexandre Scriabine, Vers la flamme, joué par Andrei Korobeynikov au piano sur un disque sorti en 2008 sur le label Mirare, qui nous a découvert ce jeune pianiste puisqu'à l'époque il n'avait que 22 ans.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Une tête bien faite aussi, Andrei Korobeynikov. Parallèlement à la musique, il est entré à l'âge de 12 ans à l'université de droit de Moscou. Il a son diplôme d'avocat. Il a même publié des ouvrages sur sa spécialité, qui est le droit de la propriété intellectuelle. Très sérieux tout cela. Par ailleurs, il adore la poésie. Il continue à jouer du saxophone, puisqu'il a été dans sa jeunesse musicien dans un groupe. Et puis, il est également compositeur, j'imagine, qui doit être également imbattable aux échecs. C'est bien le genre. Témoin de cet esprit avancé, ses prochains concerts à Paris, alors, il y en a beaucoup, mais j'en cite deux à la maison de Radio France. Ce sera la semaine prochaine, mardi 16 et mercredi 17. Il donnera en deux soirées l'intégralité du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Ah oui, ça faut le faire aussi. Il faut avoir des doigts, il faut avoir de la tête. Tiens, alors voici Andrei Korobeynikov dans l'Andante du deuxième concerto de Dmitri Chostakovitch.
Thank you.
L'andante du second concerto pour piano de Dmitri Chostakovitch en soliste Andrei Korobeynikov, l'orchestre symphonique de Lahti, dirigé par Oko Kamou. Pour un russe, on peut dire que Korobeynikov a eu le parcours obligé du pianiste, parcours passant par l'école régionale supérieure des arts de Moscou et puis le conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Par la suite, un peu plus original, il est allé étudier au Royal College of Music de Londres. C'est à Londres, justement, qu'il a fait ses premières armes en concert en se produisant en janvier 2007 sous la baguette de Vladimir Ashkenazy pour le deuxième concerto de Rachmaninov. Tiens, à propos de concert, je vous parlais tout à l'heure de ce que donnera Korobeynikov à Radio France la semaine prochaine. Eh ben, il est vraiment parmi nous en ce moment, ce vendredi. Il sera au Théâtre des Champs-Élysées le 12 avril dans un programme Beethoven, Schumann, Scriabin, Messiaen. Tiens, on va le retrouver, Andrei Korobeynikov, avec un violoncelliste, Pavel Komziakov. C'est dans la première sonate de Serge Rachmaninov. C'était le premier mouvement de la sonate opus 19 de Serge Rachmaninov, Pavel Gomziakov au violoncelle, Andrei Korobeynikov au piano.
France Musique, relax. Lionel Esparza.
On le sait, parmi les musiciens, certains n'aiment pas beaucoup les concours parce qu'ils disent que c'est pas là que s'exprime le mieux la musique. Ils ont sans doute pas tort. Mais enfin, là encore, le monde se divise en deux. Il y a les pianistes, par exemple, qui adorent passer des concours et Andrei Korobeynikov en fait partie. On dirait que ça l'amuse. Il les a enchaînés. Une vingtaine dans ses années d'études, ce qui est quand même absolument énorme. Il en a remporté quelques-uns d'ailleurs, le concours Scriabine en 2004, le concours Rachmaninov de Los Angeles en 2005, et puis une belle distinction au concours Tchaïkovski de Moscou en 2003. Le revoici avec le compositeur qu'il joue le plus avec Scriabine, c'est Beethoven. La sonate opus 78, dite à Thérèse, car écrite pour la comtesse Thérèse von Brunswick, avec qui se noie, dit-on, un amour sincère mais malheureux. Elle serait la destinée de la lettre à l'immortel bien-aimé. Mais rien qu'avec le mouvement qui suit, on s'en serait douté.
Thank you.
de brefs mouvements, bref, mais tellement inspiré, de cette 24e sonate de Beethoven par Andrei Korobeynikov, le pianiste russe qui sera donc ce vendredi à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, programme Schumann, Scriabine, Messiaen qui culminera avec l'opus 111 de Beethoven, et puis la semaine prochaine à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach en deux soirées, une expérience musicale et presque initiatique. Mardi 16, le livre 1, mercredi 17, le livre 2, je sais pas vous, moi en tout cas j'y serai. Tu le voici une dernière fois, Andrei Korobeynikov, dans le deuxième concerto de Serge Prokofiev. Serge Prokofiev, premier mouvement du deuxième concerto pour piano, Andrei Korobeynikov, Dmitri Lis et l'orchestre philharmonique d'Oural. Il est 16h.
France Musique, disque de légende. Lionel Esparza.
Notre légende du jour, Maria Callas à Paris, volume 1.
Plus prendre que
Maria Callas, Georges Prêtre et l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française dans « Je suis Titania la Blonde », extrait de « Mignon » d'Ambroise Thomas, un air conquérant, très bel cantiste, l'un des rares de cet album de 1961 qui hésite plutôt entre le grand drame farouche et le languissement désespéré. Ce répertoire français, Maria Callas le connaissait bien pour l'avoir travaillé dans ses jeunes années avec sa professeure, Elvira de Hidalgo. Celle-ci privilégiait deux langues, en effet, dans son enseignement, l'italien et le français. L'air de Titania qu'on vient d'entendre était justement l'un de ceux qu'étudia la jeune soprano. Même si elle n'a jamais tenu de rôle en langue française sur scène, Callas avait donc un profond rapport avec cette musique, avec la France et puis aussi avec Paris, où justement elle s'installe en cette année 61, dans les semaines même où elle enregistre ce programme. Paris où Callas habitera tout le reste de son existence, jusqu'à sa mort, 16 ans plus tard, au 36 de l'avenue Georges Mandel.
Rien n'égale mon
J'ai perdu mon Eurydice, l'air d'Orphée de Gluck, ici chanté par Maria Callas avec l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française et Georges Prêtre. En mars et avril 1961, cet album Callas à Paris. La première fois qu'elle s'était produite dans la capitale, c'était 3 ans plus tôt, le 19 décembre 1958, lors d'une soirée de gala célébrissime au Palais Garnier. Le tout Paris était là, Callas était alors au sommet de sa gloire. Dans l'intervalle, elle avait rencontré Onassis et annoncé qu'elle se retirait des scènes. Jour après jour, elle constatait que sa voix, trop sollicitée, était sur le déclin. Des fêlures, des notes qui tirent. Personne ne le sait encore, mais ce Maria Callas à Paris, c'est un peu le début de la fin. Et pour la voix, et pour la femme, les premières mesures du dernier acte de sa vie.
Thank you.
L'air de Dalila, Printemps qui commence, extrait de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, par Maria Callas et Georges Prêtre en 1961, extrait de l'album Maria Callas à Paris, qui prendra le titre, sous-titre plutôt volume 1, 2 ans plus tard lorsque sortira un volume 2. C'était aujourd'hui notre disque de légende, à retrouver et podcaster sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
France Musique, disque de légende. Lionel Esparza.
Jean Ferry Rebelle, c'est le prototype du musicien officiel dans l'Ancien Régime. Recruté par les 24 violons du roi, il fut maître de musique à l'Académie royale, compositeur de la chambre du roi et enfin maître de musique de l'Académie française. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment de l'officiel. On connaît de lui les éléments, un ballet très étonnant, mais c'était aussi un précieux compositeur de musique de chambre. Le voici, Jean Ferry Rebelle, avec sa 4e sonate dite « La Fort Croix ». La quatrième sonate dite « La Fort-Croix » de Jean-Ferry Rebel par Simon Pierre, Lucille Boulanger et Olivier Fortin. Et on va refermer cette émission avec les musiques de Heinrich Schütz, qui composa au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire en pleine guerre de 30 ans, une guerre meurtrière et sanglante. Eh bien, figurez-vous qu'alors les jeunes gens, quand ils vivaient dans la crainte des combats, pour se rassurer, se consoler, se donner du courage, eh bien, ils se réunissaient et ils chantaient des motets. On va en entendre un ici de Heinrich Schütz par le Richard Car consort. Une évocation du fracas des armes pendant les guerres teutoniques, c'était Teutoniam Dudum Belli de Heinrich Schütz par le Ritscherkar Consort sous la direction de Philippe Pierlot, extrait d'un disque sorti il y a peu sur le label Mirare. Un grand merci à Martine Monissier, Grégory Wallon, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission Relax dès 15h qui sera consacrée, si tout va bien, si je n'ai pas changé d'idée d'ici là, au contre-ténor Renaud van Michelen. Bah oui, ça peut changer dans la nuit, vous savez, c'est comme ça que ça se fait, un relax. Très bonne fin de journée à tous. Je vous laisse avec Anne-Charlotte Raymond.
À réécouter sur francemusique.fr.